Ce matin, nous continuons en fait ce que nous avons commencé les dimanches précédents. Nous continuons la série des prédications sur le livre de Néhémie. Donc je vous invite à lire avec moi Néhémie. Nous sommes maintenant au chapitre 2. Néhémie 2. Lisons au nom du Seigneur Jésus. Néhémie 2. Au mois de Nisan, la 20e année du roi d'Artaxerxès, comme il me fallait servir du vin au roi, je l'ai pris et le lui ai donné. Jamais encore je n'avais paru triste en sa présence. Le roi m'a demandé : pourquoi as-tu mauvaise mine ? Tu n'es pourtant pas malade. Ce n'est peut-être qu'une peine de cœur. Saisi d'une grande frayeur, je lui répondis : que le roi vive toujours. Comment pourrais-je avoir bonne mine lorsque la ville qui abrite les tombeaux de mes ancêtres est en ruine et que ses portes ont été dévorées par le feu? Le roi m'a demandé : que voudrais-tu ? J'ai alors prié le Dieu du ciel et répondu au roi : si tu le juges bon, et si moi, ton serviteur, j'ai obtenu ta faveur, j'aimerais que tu m'envoies en Juda, vers la ville qui abrite les tombeaux de mes ancêtres, pour que je la reconstruise. Le roi et la reine, assises à ses côtés, m'ont alors demandé : combien de temps ton voyage durera-t-il et quand seras-tu de retour ? Ainsi, le roi s'est montré disposé à me laisser partir et je lui ai indiqué un délai. Puis j'ai dit au roi : si tu le juges bon, qu'on me donne des lettres donnant instruction au gouverneur de la région située à l'ouest de l'Euphrate de me faciliter le passage jusqu'à mon arrivée en Juda. Qu'on me donne aussi une lettre destinée à Asa, le responsable des forêts royales, afin qu'il me fournisse le bois de charpente nécessaire pour les portes de la forteresse adjacente au temple, pour la muraille de la ville et pour la maison que j'occuperai. Le roi m'a accordé tout cela car la bonne main de mon Dieu reposait sur moi. Arrivé vers les gouverneurs de la région située à l'ouest de l'Euphrate, je leur ai remis les lettres du roi. Celui-ci m'avait fourni une escorte de chefs de l'armée et de cavaliers. Sambala et Horonite et Tobija, le fonctionnaire ammonite, ont appris avec un très grand déplaisir que quelqu'un arrivait pour s'occuper du bien-être des Israélites. À mon arrivée à Jérusalem, j'y suis resté 3 jours. Puis je me suis levé pendant la nuit, accompagné de quelques hommes, sans avoir encore dévoilé à personne ce que mon Dieu m'avait mis à cœur de faire pour Jérusalem. J'avais pris une seule bête avec moi, celle que je montais. Sortant donc de nuit par la porte de la vallée, j'ai pris la direction de la source du dragon et de la porte du fumier. J'examinais la muraille de Jérusalem avec ses brèches et ses portes dévorées par le feu. Je suis passé près de la porte de la source et du bassin du roi sans trouver de passage pour ma monture. Toujours de nuit, je suis remonté par la vallée sans cesser d'examiner la muraille. Puis je suis rentré par la porte de la vallée, et j'ai ainsi été de retour. Les magistrats ignoraient où j'étais allé et ce que j'avais fait. Jusque-là, je n'avais rien dévoilé aux Juifs, ni aux prêtres, ni aux nobles, ni aux magistrats, ni à aucun de ceux qui exerçaient une responsabilité. Je leur ai alors dit : vous voyez vous-même la malheureuse situation dans laquelle nous nous trouvons. Jérusalem est en ruine et ses portes ont été réduites en cendres. Venez, reconstruisons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans le déshonneur. Puis je leur ai raconté comment la bonne main de mon Dieu avait reposé sur moi et leur ai rapporté les paroles que le roi m'avait adressées. Ils ont dit : levons-nous et mettons-nous au travail. Et ils se sont fortifiés dans cette bonne décision. Sambala le Horonite, Tobija le fonctionnaire ammonite et Geshem l'arabe ont appris ce qui s'était passé. Ils se sont moqués de nous et nous ont traités par mépris. Ils ont dit : que faites-vous donc ? Seriez-vous en train de vous révolter contre le roi ? Je leur ai fait cette réponse. C'est le Dieu du ciel qui nous donnera le succès. Et nous, ses serviteurs, nous allons nous lever et nous mettre au travail. Quant à vous, vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir à Jérusalem. Amen. Seigneur, nous bénissons ton nom. Merci pour ta parole. Merci Seigneur, parce qu'il fallait que tu descendes. Et lorsque tu es descendu, tu nous as remontés avec toi, Seigneur. Nous te remercions infiniment pour cette parole, Seigneur, que tu as descendu parmi nous. Nous te remercions infiniment pour ton Esprit Saint qui est descendu pour nous enseigner toutes choses. Seigneur, maintenant nous nous remettons entre tes mains. Que toi seul, Seigneur, tu nous enseignes, Seigneur. Remplis-nous de toi, Jésus. Et nous arrêtons toutes les flammes enflammées que l'ennemi veut envoyer contre chacun d'entre nous. Au nom de Jésus. Amen. Nous avons vu dans Néhémie 1 la semaine dernière que Néhémie fait une prière dans laquelle on va retrouver des choses essentielles pour s'adresser à Dieu. Maintenant, dans Néhémie 2, il est face au roi, il parle au roi, il a une fonction, on l'a vu dans Néhémie 1. C'est celui qui goûte le vin du roi. C'est un privilège parce que Néhémie voit pratiquement le roi tout le temps. Dieu étant un Dieu de grâce, il a mis dans le cœur de Néhémie, je rappelle le contexte de l'époque, il y avait plusieurs juifs déportés. Quelques-uns étaient restés à Jérusalem. Parmi les juifs, il y avait des scribes, il y avait des hauts fonctionnaires avec une très grande connaissance de la parole de Dieu, mais la ville de Jérusalem était en ruine. Deux personnes à qui Dieu a mis à cœur de reconstruire Jérusalem, c'est Néhémie et Esdras. Ils sont nombreux à connaître la parole, mais il y en a deux qui sont dans l'obéissance pour faire ce que le Père veut. C'est très important de reconstruire Jérusalem parce que toutes les prophéties viennent de Jérusalem. Cette Bible est très intéressante parce qu'elle retrace l'histoire d'un peuple, mais elle retrace aussi notre histoire en tant que croyants. Pourquoi faut-il à tout prix reconstruire les murs de Jérusalem ? Parce que dans Jérusalem se trouve le temple. Et Dieu siège au milieu de la louange. Dieu a besoin d'un temple. Ici, vous devez comprendre que dans le terme temple, il y a l'édifice, mais il y a aussi les êtres que nous sommes, puisque désormais dans la Nouvelle Alliance, le temple de Dieu, c'est le corps du croyant. Donc il faut reconstruire le temple. La communauté des croyants s'appelle l'Église. C'est aussi un temple. Ézéchiel 28, verset 2. Il est écrit. Fils de l'homme, annonce au chef de Tyr, voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Ton cœur s'est enorgueilli, et tu as dit, je suis un Dieu, je suis assis sur le trône de Dieu, au cœur de la mer. Pourtant, tu n'es qu'un homme et non un Dieu, mais tu te considères au même niveau que Dieu. Cette prophétie a été reprise dans 2 Thessaloniciens 2, le verset 4. Paul explique à ceux de Thessalonique, donc Dieu nous explique en fait que l'impie se mettra dans le temple de Jérusalem et se déclarera Dieu. Cette prophétie n'est pas encore arrivée. Je vous rappelle au passage que le début de la reconstruction du troisième temple de Jérusalem a commencé. Quand le temple sera fini, l'impie entrera dans le temple et dira « Je suis Dieu, maintenant c'est moi qu'il faut prier. » J'aime le Seigneur parce que tout ce qui va arriver nous est déjà dit. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Personne ne pourra dire que nous ne savions pas. Nous savons que les choses vont se passer de cette façon. Et donc, il est nécessaire que Jérusalem, pour que le temple soit rebâti. Ceux qui lisaient la parole avec attachement avaient compris que la reconstruction est nécessaire. Et lorsqu'on lit la parole avec attention, nous comprenons que le temple que nous sommes de Dieu doit être chaque fois rebâti pour que Dieu soit dans toute sa gloire. Souvenez-vous dans Genèse 2 et 3, lorsqu'il y a eu la chute d'Adam et Ève, Dieu a fait une chose extraordinaire. C'est que Dieu a habillé Adam et Ève juste après le péché. Voyez-vous comment Dieu rebâtit ce qui a été détruit. Dieu reconstruit ce qui a été détruit. On voit aussi dans l'histoire de Noé comment le peuple était éloigné de Dieu, mais le Seigneur a fait grâce parce qu'il a demandé à Noé de faire une chose incroyable, bâtir un navire dans un lieu où il n'y a pas d'eau. Les choses d'en haut sont des choses essentielles, difficiles à comprendre. Mais il fallait que Noé écoute et bâtisse pour que l'humanité survive. Je ne sais pas si vous avez fait attention à cette partie des Écritures, dans Genèse. Si Noé n'avait pas obéi à Dieu, que serions-nous devenus? Si Noé n'avait pas obéi à Dieu, il n'y aurait plus d'hommes sur cette terre. Tout le monde serait mort. Tous ceux qui étaient là seraient morts. Il n'y aurait plus eu de progéniture. Donc Dieu a protégé son peuple en demandant de rebâtir. Après, le maître vient. Celui-là, il s'appelle le maître Jésus-Christ. Personne n'est comme lui. Personne ne parle comme lui. Personne n'explique comme lui. Dans Jean 2, les versets 13 à 25, à la fin du culte, vous aurez tous les versets affichés, si vous n'avez pas pu les noter. Jean 2, versets 13 à 25, il dit aux Juifs, « Détruisez ce temple, je le rebâtirai en 3 jours. » Un juif ne peut pas comprendre. Un homme vient lui dire qu'un temple qui a mis autant d'années à être bâti puisse être rebâti en 3 jours. Déjà là, la grâce que Dieu nous fait, c'est de comprendre que Christ parle de la nouvelle alliance. Et le temple, c'est le corps de Jésus. C'est le corps de Jésus. Ainsi donc, il annonce sa mort, mais il annonce aussi sa résurrection. Dieu nous a fait grâce. Mes chers amis, comprendre ces choses est une grâce. Il y a des gens encore sur cette terre qui ne comprennent pas que Christ dit qu'en 3 jours, je rebâtirai ce temple. Alléluia, Jésus. Ce matin, deux parties dans ces textes de Néhémie. La première partie va aller du verset 1 au verset 10, et la deuxième partie à partir du verset 11. Ces textes, lorsqu'ils sont lus, ils peuvent paraître éloignés de notre quotidien, de notre réalité. C'est une fausse apparence. La Bible est vivante. La Bible est une réalité spirituelle. Et la Bible, elle est actuelle. C'est notre vie qui s'actualise par rapport à la Bible. Ce n'est pas l'inverse, parce que c'est la Bible qui est la lumière. C'est cette parole qui nous aide à nous diriger. Comment peut-on dire qu'on connaît Dieu si on ne connaît pas ses écrits, si on ne sait pas ce que Dieu dit, si on ne lit pas ce que Dieu dit? Mes chers amis, connaître Dieu, c'est d'abord connaître sa parole. C'est fondamental, fondamental de lire la parole de Dieu. Parce que dans Jean 10, 10, le diable vient pour voler. Et la première chose qu'il te vole, c'est la parole de Dieu. Il ne faut pas que tu connaisses la parole de Dieu. Il ne faut pas que tu connaisses pourquoi Jésus est allé à la croix. Il ne faut pas que tu connaisses ces choses pour que tu ne sois pas attiré par ce grand Dieu merveilleux qui t'a tant aimé. Néhémie est responsable des boissons du roi. C'est lui qui donne la boisson au roi. J'aime beaucoup les images de la Bible. Je ne sais pas si vous vous voyez dans Néhémie à ce moment-là. Un parallèle simple. Christ dit, désormais, ceci est mon sang, buvez et faites-le en souvenir de moi. Mes chers amis, quand nous prenons la Sainte Cène, nous sommes à côté du roi et nous sommes en train de boire. Ah, Jésus est bon. Jésus est bon.
Amen.
Des gens aussi pécheurs boivent à la table du roi. Mes amis, ce roi merveilleux qui a tout créé. Vous avez remarqué qu'il n'y a pas que la terre que Dieu a créée. Il y a d'autres planètes que Dieu a créées. Mais il s'abaisse jusqu'à toi pour te prendre et te faire assiéger avec lui. Oh Jésus, tu es grand. Néhémie fait une chose extraordinaire, c'est que face au roi, il enlève sa nature charnelle. Lorsque le roi lui demande, qu'est-ce qui t'arrive? J'aime bien la question du roi. Le roi connaît bien les hommes. Il lui dit, tu es triste. Connaissant les hommes, ça ne peut être qu'un chagrin d'amour. Donc, quand un frère est triste ou une sœur est triste dans l'église, on peut lui demander, est-ce un chagrin d'amour? Ah, le roi, il est pas mal. Il tend une perche à Néhémie. Néhémie va répondre avec toujours les mots d'usage que le roi vive toujours. Les mots d'usage lorsqu'on s'adresse à un roi. Mais ici, j'aimerais élever cet échange en le mettant face à Jésus-Christ. Quand tu t'adresses à Jésus-Christ, est-ce que tu dis que le roi vive toujours? Vous savez, mes chers amis, des fois même dans nos prières, on ne voit pas la majesté de Dieu. Il t'a appelé ami, c'est une grâce qu'il t'a fait. Mais c'est un grand roi. Quand tu pries, tu t'adresses à un grand roi. Néhémie veut présenter une requête. Vous avez vu que dans sa prière précédente, il a prié de telle sorte qu'on a vu la confession, on a vu l'intercession, on a vu l'adoration, on a vu aussi les actions de grâce. Les cinq éléments de la prière rappelés par Jésus-Christ dans Matthieu 6, dans Notre Père, ces cinq éléments existent parce que les prophètes annoncent Jésus, parce que les prophètes parlent de Jésus. Ils ne peuvent parler de personne d'autre. Néhémie est face au roi et là, il fait une chose extraordinaire, c'est qu'avant de répondre, il prie dans son cœur. Quand j'ai vu cette partie, je me suis dit, oh Seigneur, tu es tellement bon parce que tu sais t'adresser à tes enfants, notamment moi le premier. J'ai remarqué une chose qui me poursuit jusqu'aujourd'hui. Il m'est facile de prier dans une église, à la maison, dans une voiture, mais il m'est extrêmement difficile de prier au travail. Je ne sais pas s'il y en a dans la salle qui ont le même problème que moi. C'est difficile pour moi de prier au travail. Et pourtant, Dieu a fait grâce que nous avons commencé un groupe biblique dans l'entreprise dans laquelle je suis. Mais dans certaines circonstances de réunion, j'ai du mal à m'arrêter et à prier dans mon cœur. J'ai passé dernièrement un entretien surprise dans lequel j'ai changé avec ma responsable. Et quand nous avons fini l'entretien, je me suis dit qu'il a manqué quelque chose. Il y a une chose que je n'ai pas fait. Et je n'ai pas prié. Je n'ai pas prié. Parce qu'en fait, Christ, lorsqu'il fait des miracles, il prie, il s'adresse au Père. Néhémie veut demander quelque chose au roi. Mais il comprend une chose essentielle. Ce n'est pas le roi qui décide. Vous savez que ce n'est pas le roi qui décide. Vous savez que ce n'est pas les hommes qui décident. Ainsi donc, lorsque vous vous adressez à un homme, si vous n'avez pas appelé le roi des rois, il y a une autre personne qui vient chuchoter une réponse à ça. Elle s'appelle Satan. Satan va faire le contraire de votre demande. Il est essentiel de prier à chaque instant. Oh, je remercie le Seigneur qu'il ait dit dans sa parole. Lorsqu'on nous demandait de citer des versets bibliques quand j'étais en Afrique, ce verset, nous le connaissions par cœur. Priez sans cesse. 1 Thessaloniciens 5:17. Priez sans cesse. Notamment dans des moments où vous êtes dans une requête, dans une demande. Et Néhémie sait qu'il s'adresse au roi des rois pour que le simple roi le réponde. Mais le roi ne peut pas dire le contraire du roi des rois. Donc il prie d'abord intérieurement. Mes chers amis, il est extrêmement important. C'est une clé pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, de ne pas oublier la prière. Donc Éphésiens 6, Dieu nous a montré toutes les armes dont nous disposons. Mais une arme essentielle qui arrive à la fin. Il faut bien lire la Bible parce qu'il y a des fois des petites phrases qui nous échappent. Il est dit que dans tout cela, il faut toujours prier. C'est-à-dire que la prière est l'arme qui va de la tête jusqu'aux pieds. Et lorsque j'ai des requêtes à faire, il faut que je demande à mon roi. Il faut que je demande à mon Dieu. Ainsi donc, il nous est rappelé dans Philippiens 4, verset 6. Dans toutes circonstances, faites toutes sortes de supplications à votre Dieu. En toutes circonstances. Mes amis, que notre nature rebelle ne nous rattrape pas, il est facile de prier quand j'ai juste une demande à faire. Il est facile de prier quand je veux avoir un enfant. Il est facile de prier quand je veux me marier. Il est facile de prier quand je cherche du travail. Mais Dieu t'attend aussi quand tout va bien. Quand tout va bien. Quand tout va bien. Cet homme, Néhémie, était préparé à parler au roi parce qu'il a su prier quand tout allait bien, mais aussi quand tout n'allait pas bien. Il s'adresse au roi des rois. Ainsi donc, que fait le roi ? Il accède à la requête de Néhémie. Ainsi, il va permettre à Néhémie de disposer du mandat pour aller reconstruire les murs de Jérusalem. Mes chers amis, j'exalte la parole de Dieu. Ah, Jésus, merci. Parce que ce matin, je suis venu te dire aussi que tu as un mandat. Ton mandat dépasse celui de Néhémie. Dans Matthieu 28, le Seigneur Jésus dit, « Allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et apprenez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. » Voilà la lettre que le roi t'a donnée ce matin. Voilà le mandat que tu as sur cette terre. Tu dois être édifié par sa parole, par la louange, mais tu dois aussi aller vers les autres pour annoncer cette bonne nouvelle. Attention, le malin essaie toujours de nous rattraper par notre nature charnelle. J'ouvre une petite parenthèse. Quand le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, Pharaon les a laissés sortir. Parce que Dieu avait déployé une telle puissance que Pharaon ne pouvait plus résister. On ne peut pas s'opposer à la volonté de Dieu. Il a accepté. Mais lorsque le peuple d'Israël sort, la nature rebelle de Pharaon reprend le dessus. Il demande à ses cavaliers de charger. Nous allons aller les rattraper. Dans Exode 12, il est dit, Pharaon va prendre 600 chars, ses meilleurs chars, pour pouvoir poursuivre le peuple d'Israël. Mes chers amis, les chiffres dans la Bible ont beaucoup de sens. Le chiffre 6 est le chiffre de l'homme, né le sixième jour. Et Pharaon, c'est la nature rebelle même de l'homme. Quand Dieu dit « Allez, faites des nations des disciples », notre chiffre rebelle, l'homme, dit « Moi, je vais pour faire les nations des disciples ». Non, ce n'est pas toi. Toi, tu représentes le chiffre 6. Il faut arriver au 7. Il faut que Dieu lui-même fasse. C'est Dieu qui fait. Et c'est pour ça que nous cherchons les choses d'en haut. Si pendant la prédication ou pendant les prédications que vous suivez, vous êtes ébloui par la connaissance de l'homme qui cite des versets bibliques, on est dans le chiffre 6. Il faut être ébloui par Dieu. On quitte le chiffre 6. On regarde maintenant Jésus-Christ. Parce que celui qui, au son de la trompette, fera monter le peuple de Dieu, c'est pas un homme. Si vous vous dites, moi je vais m'accrocher à l'enseignement de cet homme, il ne vous emmènera pas au paradis. Mais je connais un homme qui a dit à un autre homme assis à sa droite, qui n'était pas assis, qui était sur une croix comme lui, ce soir même tu seras avec moi au paradis. Il n'y a que Jésus qui peut dire ça. Et donc si c'est dans cette prédication, Jésus n'apparaît pas, cette prédication n'a pas de fondement. Nous sommes ici pour vous présenter l'agneau de Dieu, Jésus-Christ, celui qui est allé à la croix pour nos péchés. Personne n'est allé à la croix pour lui, sauf Jésus. C'est celui-là qu'il faut adorer. C'est celui-là qu'il faut regarder. Vivre en fraternité avec ses frères et sœurs est une chose, mais adorer Dieu, c'est la meilleure des choses. C'est lui qui fait toutes choses. Dieu, ce matin, veut rétablir des choses. Parce que vous voyez, cette partie de Néhémie est une partie importante parce que ça nous interpelle, nous. Qu'est-ce que je dois rétablir avec Dieu? Dans ma condition, en tant que croyant, mais aussi dans mon église. Quelles sont les choses dans notre église que nous ne faisons pas, que Dieu veut qu'on fasse? Quelles sont les choses que moi, j'ai du mal à faire, mais que Dieu veut que je fasse? Pour que je sache, il faut que je lise la parole. Pour bien savoir ce que Dieu attend de moi. Quand les gens se marient, j'aime bien ce passage à la mairie. On va citer les devoirs des époux. On va citer pas mal de choses. J'aime le Seigneur parce que c'est dans ta parole qu'il te cite ce qu'il attend de toi. Et si ce matin, il y a des gens dans la salle qui ne connaissent pas encore Jésus-Christ, Jésus-Christ t'appelle à être réconcilié avec lui. Parce que l'être humain n'est pas réconcilié avec Dieu à cause du péché. Et il faut que quelqu'un prenne ce péché. Et il n'y a que Christ qui peut prendre ton péché. Ainsi, je t'invite à la fin du culte, si tu veux suivre Jésus, si tu veux abandonner le péché, je t'invite à venir nous voir pour en parler. Parce que Jésus t'a aimé et il est allé à la croix pour toi. Que dois-tu reconstruire? C'est la suite. Dans les versets 11, remarquez un homme qui va arriver à Jérusalem et toujours des clins d'œil dans la parole de Dieu, il va y séjourner 3 jours. Il va y séjourner 3 jours. Lorsqu'on voit Christ est mort, au bout du 3e jour, il est ressuscité. On comprend pourquoi, dans la parole de Dieu, vous retrouverez souvent cette citation chez les prophètes, qu'ils ont fait quelque chose en 3 jours. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi. Il inspecte Jérusalem. Cela nous invite à nous inspecter. Il ne faut pas se mentir. Il faut s'inspecter. Voir là où nous sommes forts. Peut-être que ma force est dans la louange. Je chante beaucoup pour Dieu. Peut-être que ma force est dans les actions de grâce. Peut-être que ma force est dans le fait de bénir les autres. Peut-être que ma faiblesse est dans la prière. Peut-être que ma faiblesse est dans la difficulté de lire la parole de Dieu. Néhémie, de nuit va inspecter Jérusalem. Il nous invite à nous inspecter et à inspecter notre église. De nuit, j'aime bien le Seigneur. Il met toujours des détails. De nuit, ça a du sens. Et il dit, je n'ai rien partagé avec les Juifs. Tu es dans le secret avec ton Dieu. C'est pour ça que Jésus... Les prophètes ne citent que Jésus. C'est pour ça que Jésus te dit, quand tu veux t'adresser au Père, entre dans ta chambre. Attention, il ne faut pas prendre ça littéralement. Entre dans ta chambre veut dire, mets-toi dans le secret avec Dieu. Parle à Dieu dans le secret. Les choses de Dieu se font dans le secret. Néhémie va inspecter, va voir ce qui ne va pas, pour pouvoir lister ce qui ne va pas. Oh, j'aime la Bible, elle est pratique. Mes chers amis, sur ton frigo, tu peux marquer, ma difficulté, c'est de prier 1 heure. Ma difficulté, c'est de lire 1 chapitre par jour de la Bible. Ma difficulté, c'est d'intercéder pour mes frères et sœurs. Écris-le sur ton mur. Comme ça, tu vas t'en souvenir. La Bible, elle est pratique. Il inspecte, il voit ce qu'il ne va pas, et il fait une chose. Il va maintenant appeler les Juifs pour leur expliquer pourquoi il est venu, pourquoi Dieu l'a envoyé, pourquoi Dieu a mis à cœur ce qu'il doit faire. N'est-ce pas la remarque que Jésus fait aux disciples dans Matthieu 26, 40? Vous n'avez pas pu prier une heure avec moi. Voyez-vous l'exemple de Néhémie? Il a passé la nuit à inspecter Jérusalem. Mes chers amis, il est temps que nous passions des fois ensemble la nuit à prier ensemble. Parce que c'est ça les enfants de Dieu. Néhémie, au lieu de dormir en ce temps-là, il prend son cheval avec quelques cavaliers, il va tourner dans la ville, au temps où les gens ronflent, dorment, ont le sommeil profond, rêvent même. Après avoir beaucoup mangé le soir. Je vous rappelle que nous sommes dans une société de surconsommation dans certains pays et sous-consommation dans d'autres pays. Ça, c'est le diable. Christ nous appelle à la prière. À la prière toute la nuit. Et il faut inspecter ce qui ne va pas. Est-ce que dans ce qui ne va pas dans ta vie, c'est peut-être les choses du monde? Oh, j'aime Jésus. J'ai vaincu le monde. Jésus te donne la victoire sur le monde. Encore faut-il que tu sois conscient que ce que tu fais est du monde ou pas. Mes chers amis, si nous regardons beaucoup de films du monde, si nous écoutons la musique du monde, nous venons le dimanche à l'église, sommes-nous de Dieu ou du monde?
Du monde.
Du monde, amen. Les enfants de Dieu écoutent leur père. Pour écouter le père, on lit la Bible. Oh, je remercie le Seigneur parce que dans la nouvelle alliance, Dieu nous a donné beaucoup d'instruments. Aujourd'hui, si vous allez sur Internet, vous pouvez trouver une panoplie de films chrétiens. Vous pouvez trouver, même pour les enfants, ce matin, on a eu la bénédiction, vous pouvez trouver une panoplie de dessins animés chrétiens. J'ai remarqué que quand mes filles regardent beaucoup les dessins animés du monde, elles sont des fois des insomnies. Je comprends pas. À 1h du matin, papa, j'arrive pas à dormir, j'ai fait un cauchemar. Si tu as vu Game Boy en train de tuer le voisin, tu ne peux que faire des cauchemars. Mais si tu regardes l'histoire d'Abraham, qui dure 2 heures en dessin animé, tu ne feras pas de cauchemars. Mes chers amis, c'est quand ils sont petits qu'il faut les intéresser aux choses de Dieu. Si tu regardes des films pendant des heures et des heures, t'es faim. Ta nuit sera tourmentée. Mais si tu regardes le film de Moïse qui dure 2h30, tu seras dans la paix. Ah, le diable nous persécute. Toutes ces musiques du monde qui nous reviennent à l'esprit, mais c'est infernal. J'ai travaillé à la maison la semaine dernière et comme nous sommes en face du centre de loisirs, j'avais ouvert la fenêtre et ils avaient mis au centre de loisirs, je comprends pas ça aussi, dans les centres de loisirs, ils mettent beaucoup de musique du monde, mais vraiment, c'est terrible. Ils avaient mis Michael Jackson. J'ai reconnu le refrain. Comment le diable plante des semences? Il a fallu que je prie intérieurement pour dire non, il faut que je chante la louange à Dieu. J'ai fermé la fenêtre. Mes chers amis, il est subtil le malin. Quand dans ta maison à la radio, tu mets la musique du monde, cette musique pénètre en toi. Et elle revient sans cesse. Le diable essaye de mettre des barrières. Il y a peut-être des obstacles dans ta vie, il y a peut-être des obstacles dans l'église dans laquelle tu es, il y a peut-être des obstacles dans notre église. Il y a Sambala, le Horonite, il y a Tobija, il y a Geshem, l'Arabe. J'aime parce que la Bible va citer 3 personnages qui vont impacter sur le travail de Néhémie et Esdras Mais lorsque vous allez dans Matthieu 4, vous voyez que le diable vient avec trois questions pour Jésus. Christ est annoncé. Il y a trois questions pour Jésus. Il y a trois questions pour le faire tomber. Mais il y a aussi trois questions pour toi. Il y a peut-être trois personnages que le diable utilise pour te faire tomber. Pour avancer avec Dieu, tu dois identifier quelles sont les tentations que le diable a mises devant toi. Quelles sont ces tentations que le diable a mises devant toi? Est-ce l'amour fraternel qui te manque? Vous savez que quand on fait des remarques à des frères et sœurs, il ne faut pas les faire quand on n'a pas assez d'amour dans le cœur. 1 Corinthiens 13. Si tu n'as pas assez d'amour dans le cœur, ne va pas faire la remarque à ton frère. Parce que tu vas le blesser. Et il te blessera à son tour comme un animal blessé. C'est naturel. On valide l'amour. C'est de cette façon que nous parlons aux autres. Et c'est de cette façon que Christ nous parle. C'est parce qu'il nous aime, oh mes chers amis. Si Jésus devait nous parler en nous relatant à chaque fois les péchés que nous avons faits, je ne sais pas comment nous devions être. Te souviens-tu telle année de tel péché que tu as fait? Te souviens-tu de telle autre année de tel péché que tu as fait? S'il fallait que Jésus nous parle comme ça. Non, Jésus nous parle avec amour. Nous devons bâtir, rebâtir. Prendre exemple sur ceux qui nous ont précédés, ces hommes aimaient Dieu. Et j'ai beaucoup aimé le témoignage que la Bible fait de quelqu'un comme Esdras. Dans Esdras 7, il est écrit, à partir du verset 6, « Cet Esdras monta de Babylone. C'était un scribe versé dans la loi de Moïse. » Donné par l'Éternel, le Dieu d'Israël, et comme la main de l'Éternel, son Dieu reposait sur lui, le roi lui accorda tout ce qu'il avait demandé. Plusieurs des Israélites, des prêtres et des Lévites, des musiciens, des portiers et des serviteurs du temple montèrent aussi à Jérusalem la septième année du roi. Esdras arriva à Jérusalem le cinquième mois de la septième année du règne du roi. Parti de Babylone le premier jour du premier mois, il arriva à Jérusalem. Le premier jour du cinquième mois, car la bonne main de son Dieu reposait sur lui. En effet, Esdras avait appliqué son cœur à étudier et mettre en pratique la loi de l'Éternel et à enseigner ses prescriptions et règles en Israël. Le verset 10, Esdras 7, verset 10, c'est pareil que Matthieu 28. C'est pareil. Connaître la parole, enseigner, propager la parole. Dans Jean 14, 31, Jésus annonce à ses disciples qu'il va reconstruire. Mais quelque part, on peut même dire qu'il va construire. Puisque Christ va bâtir son église, on peut le voir aussi. Dans Matthieu 16, cette conversation que Christ a avec Pierre, où il dit à Pierre à la fin, « Pierre, c'est-à-dire Cephas, sur cette pierre je bâtirai mon église. » Problème d'interprétation, beaucoup, notamment chez les catholiques, ont pensé que la pierre dont il parlait, c'était le Pierre. Non, c'est-à-dire que de la révélation du Fils de Dieu, Jésus bâtit son église. Mais Jésus prend le nom de Pierre, c'est pas ce qui s'appelait Simon, mais toi aussi désormais il t'appelle Pierre, parce qu'il t'a donné la révélation du roi des rois. Jésus est bon. Mardi dernier, dans le groupe de prière, Priscilla a partagé avec nous le fait qu'il y a des frères d'autres églises qui disait qu'il y a une onction particulière dans votre église, il y a une onction de mariage. Je dis alléluia. Alléluia. Dieu nous a fait cette grâce de voir, de célébrer beaucoup de mariages dans cette église. Et Dieu nous fera encore grâce de célébrer d'autres mariages. Et gloire à Dieu parce que j'aime le Seigneur, parce que vous voyez, Néhémie était quelqu'un qui donnait le vin au roi. Lorsqu'on termine Néhémie 2, Néhémie n'a plus la même fonction. Néhémie a désormais une fonction de gouverneur. Vous comprenez que pour être élevé, Il faut chercher les choses de Dieu. J'aime la Bible. Tu veux te marier? Tu veux te marier? Non, ne cherche pas un fiancé. Cherche Jésus. Tu veux un enfant? Tu cherches Jésus. Ne cherche pas la fécondation. Cherche Jésus. Parce que lui, il est né par fécondation in vitro. Tu veux travailler? Cherche un travail dans l'église. Dieu s'occupera de toi. Mes amis, le diable nous accuse tous les jours. Le diable dit à Dieu, mais non, si tu lui donnes tout ça, il te suivra. Ne lui donne pas. On va voir s'il a la foi. Tous les jours, le diable nous accuse. Mais lorsque nous nous tenons attachés à Jésus, c'est lui-même qui fait pour nous. Il est temps que Dieu fasse pour toi. Il est temps que Dieu prenne toute sa taille dans ta vie. Il est temps que Dieu fasse pour notre Église encore plus. Je termine par un témoignage sur les dons et les onctions particulières. Quand Elena est née, la fille de Christelle, elle avait un problème au bras et nous avons prié pour elle. Et Dieu a fait une grâce extraordinaire. Quand vous voyez cet enfant aujourd'hui, vous ne pouvez pas savoir qu'au départ, elle avait un souci au niveau du bras. Dieu est grand. Quand ma femme est tombée enceinte, j'ai imposé les mains plusieurs fois. Je ne l'ai pas vue guérir instantanément. Je me suis dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi, avec toutes ces prières, elle ne guérit pas tout de suite? Mes chers amis, nous avons quelque chose à rebâtir. Nous avons besoin d'une onction de guérison dans cette église. Que Dieu nous redonne une forte onction de guérison dans cette église. Parce qu'il y a d'autres personnes qui sont encore malades dans cette église. Et c'est Dieu qui va les guérir. C'est pas un homme. C'est pas celui qui impose les mains. Il faut que Dieu guérisse. Et j'en ai écouté des prédications. Oh, je remercie le Seigneur. J'en ai écouté sur la guérison. Parce que des fois, le diable nous emmène dans l'usurpation. Tu as lu la Bible, tu as l'impression que tu as accompli tellement de choses que tu n'as plus besoin d'apprendre encore. J'aime le Seigneur. Il te met face à un mur. Il te met face à une pierre que tu n'arrives pas à déplacer. Mais elle guérit pas. Que fais-tu? Tu vas chercher dans les Écritures. Tu vas chercher à comprendre d'où vient cette onction. Comment avoir cette onction? Comment chercher Dieu? Comment rebâtir les murailles de Jérusalem sur le plan de Dieu? Comment être obéissant? Cet homme est merveilleux. Il s'appelle Jésus-Christ. Il a été à la croix pour chacun d'entre nous. Et dans Jean 1, Jean-Baptiste a dit, « Je ne suis pas digne de délier ses sandales. » Alors la parole de Dieu, elle est trop merveilleuse. C'est un délice. Mais je vais m'arrêter là, je vous promets que je vais m'arrêter. Parce que sinon je vais continuer. C'est tellement délicieux. Moïse arrive devant le buisson ardent. Dieu lui dit, enlève tes sandales. Josué est devant l'ange de l'Éternel. Dieu lui dit, enlève ses sandales. Mais Jésus vient. Jean-Baptiste dit, je ne peux pas enlever ses sandales. J'aime Jésus. Il y a une explication. Mais vraiment, Jésus nous a rachetés. Deutéronome 25, versets 7 à 9. Il est dit que dans la coutume juive, si une femme perd son mari, il faut qu'il y ait un proche parent qui la prenne pour épouse. Mais si le proche parent refuse de la prendre pour épouse, il doit enlever ses sandales et la femme doit lui cracher dessus. On a craché sur Jésus. C'est la loi qui s'accomplit. Le malin fait cracher sur Jésus pour dire que Jésus ne peut pas racheter. Vous l'avez compris, l'époux, c'est Jésus. Vous pouvez lire aussi Ruth 4. L'époux, c'est Jésus. Jésus nous a rachetés. C'est pour ça que Jean-Baptiste, prophétiquement, on ne peut pas comprendre. Pourquoi parle-t-il de sandales? Il voit Jésus passer. Il parle de sandales. Ça n'a aucun lien. Non, 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 c'est spirituel. Jésus t'a racheté. Ainsi donc, on ne peut pas enlever ses sandales. Tu ne peux pas. Parce que Christ t'a racheté. Il n'y avait personne pour te racheter. Christ a accompli la loi pour que toi et moi ayons accès à Dieu. Sinon, c'était impossible. Ces hommes étaient des prophètes. Ils parlaient en prophétie. Le peuple ne comprend pas la prophétie. Les disciples comprennent la prophétie. Je suis venu te dire que Dieu a une prophétie pour toi. Tu seras avec lui au paradis si tu le suis. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.
Amen.